Chapitre 18. Quand Sélanie, qui vivait toujours devant sa fenêtre ou devant sa porte vitrée, vit passer Favori et que dans le coupé jaune menait grand train, elle reconnut le curé de Saint-Maclou, elle fut prise d'émoi. Où allait-il ? À Berneval, sans aucun doute, et sans aucun doute aussi chez Marichette. Cela n'était pas difficile à arranger, mais ce qui était plus difficile à deviner, c'était ce qu'il allait faire chez Marichette. Le corsaire, plus mal, voulait-il la voir avant de mourir? Était-ce un arrangement qu'il voulait faire négocier par le curé? Ça avait toujours été sa grande frayeur, cet arrangement, une obsession de tous les instants qui l'enfiévrait et l'empêchait de dormir. Allait-il se réaliser? Marichette allait-elle céder? Les prêtres sont si habiles. Comment savoir? Cependant, le doyen continuait son chemin, sans trop penser aux difficultés de sa mission et sans même imaginer qu'il pût en rencontrer de sérieuses. Évidemment, cette pauvre fille, une lingère, ne pouvait être que grisée par la possibilité de devenir la femme de Belloc. Qui pouvait savoir si ce n'était pas cette secrète espérance de se faire épouser qui l'avait empêchée d'abandonner son fils à Belloc? Le fils avec la mère, ou bien ni le fils ni la mère. Quand Marichette vit un prêtre entrer dans son magasin, où elle se trouvait avec mademoiselle Julienne, elle ne montra aucune surprise. Elles étaient habituées à recevoir de temps en temps des prêtres qui venaient leur commander de la lingerie pour leurs églises, mais au premier mot du doyen, elle s'inquiéta. « Mademoiselle Cabernet, je suppose, » dit-il en s'adressant à elle. « Je suis le curé doyen de Saint-Maclou, je désire avoir un moment d'entretien particulier avec vous. » Vivement, mademoiselle Julienne se leva et sortit, intriguée par cette visite, mais n'ayant pas l'idée de rester cependant. « J'ai beaucoup entendu parler de vous par votre vénéré pasteur, » dit-il lorsqu'ils furent seuls, « et c'est ce qu'il m'a rapporté qui m'a inspiré la pensée d'amener M. Simon Belloc à un acte de réparation plus digne et plus complet que celui auquel il s'était résolu en reconnaissant votre fils. » M. Simon Belloc, malgré sa répulsion pour le mariage, s'est laissé toucher par la voie du devoir, ainsi que par celle de notre sainte religion, et aujourd'hui, il consent enfin à vous demander de devenir sa femme. Marichette resta un moment sans répondre, montrant plus de surprise que de satisfaction, en tout cas prenant son temps pour réfléchir. « Je crois comprendre, dit-elle enfin, que c'est votre intervention qui a inspiré la résolution de M. Belloc. J'ai agi comme je le devais. Mon devoir est donc de vous adresser mes remerciements, et je le fais de grand cœur, monsieur le curé, avec la reconnaissance d'une pauvre fille qui n'a pas été gâtée par les témoignages de sympathie. Mais, cela dit, je dois vous répondre que si monsieur Simon Belloc consent à me prendre pour femme, je ne peux pas consentir, moi, à l'accepter pour mari. » « Je ne vous parlerai pas des intérêts matériels que vous sacrifieriez en persistant dans cette résolution. Je ne vous parlerai que des intérêts moraux qui résultent pour vous et pour votre fils de ce mariage. » « C'est justement aux intérêts moraux que je pense en le refusant. Et ce sont eux seuls, qui me font persister dans mon refus. Je n'ai pas voulu que mon fils vécût auprès de M. Simon Belloc, de peur qu'il fût perdu par les leçons et les exemples d'un homme indigne. » En devenant la femme de cet homme et en vivant près de lui, je ne préserverai pas mon fils de ses leçons et de ses exemples, au contraire. Vous les neutraliseriez par votre seule présence. Et si ma présence n'avait pas l'efficacité que vous lui attribuez, puis-je exposer mon fils à un pareil danger? Songez aux avantages sociaux et légaux que vous repoussez pour vous et pour votre fils en repoussant ce mariage. N'oubliez pas que M. Belloc est mourant et que sa vie n'est plus à faire que de quelques mois, de quelques jours peut-être. Et s'il ne mourait pas, comme on le croit, les médecins peuvent se tromper, mon fils et moi, nous devrions donc vivre près de lui. Je ne parlerai plus de mon fils, je ne parlerai que de moi. Eh bien, monsieur le curé, je vous déclare que je ne suis pas la chrétienne que vous croyez et qu'il n'est pas en mon pouvoir de pardonner l'injure que m'a faite M. Simon Belloc. Il m'a précipité dans l'enfer. Par lui, je suis une maudite. Ce serait en maudite que je me vengerais si je vivais près de lui. Je ne serai jamais sa femme. Je crois que c'est pour adoucir ces derniers moments que vous avez eu l'idée de ce mariage. ne persistez pas dans cette idée, car s'ils se faisaient, je les empoisonnerais. » Cela fut dit avec une énergie et une véhémence qui étonnèrent le doyen. Tout ce que put dire le doyen fut inutile. Marichette persista dans sa résolution, elle ne serait jamais la femme de M. Simon Belloc. Lorsque Mlle Julienne entendit le coupé partir, elle se précipita dans le magasin. « Eh bien, que voulait-il ? » Marichette raconta ce que le doyen lui avait proposé et ce qu'elle avait répondu. « Vous avez refusé ?» Puis, se reprenant, « Quand ce n'aurait été que pour lui faire expier tout le mal qu'il vous a fait à vous et à Pierre ?» C'est précisément parce que je n'aurais été que trop portée à cette expiation que je devais refuser. Mademoiselle Julienne réfléchit un moment, puis de sa voix grave. « Vous avez raison, dit-elle, mais j'avoue qu'à votre place, je n'aurais pas eu cette vertu. » Elles furent interrompues par Célanie qui se précipita dans le magasin. Incapable de rester en proie à l'inquiétude qui la dévorait, elle s'était décidée à venir savoir. Et comme elle n'avait pas de voiture, elle avait fait le chemin à pied, courant plutôt que marchant. « Le corsaire est-il mourant ? » demanda-t-elle haletant. « J'ai vu passer le curé de Saint-Maclou, j'ai pensé qu'il venait ici. »«
En effet. »«
Eh bien ? » ?»«
Je ne crois pas qu'il soit mourant, car il veut se marier. »«
Avec qui ? » ?»«
Avec moi. »
Célanie resta anéantie.
« Rassurez-vous, je n'ai pas accepté. »«
Quelle brave fille tu es !»
Et Célanie voulut se jeter dans les bras de Marichette, mais celle-ci se déroba cette embrassade.
Pendant ce temps, le doyen retournait à Saint-Maclou. Pendant tout le temps qu'avait duré ce voyage, Belloc n'avait eu qu'un souci. Le curé serait-il ferme sur le contrat de mariage ? Il les connaissait bien, les curés, et savait qu'ils traitent assez légèrement les affaires d'argent où leurs intérêts personnels ne sont pas en jeu. Aussi, sa première question trahit-elle sa préoccupation.
« Eh bien, monsieur le curé, avez-vous été ferme pour le contrat ?»«
Je n'en ai point parlé. »«
Mais alors ?»«
Elle refuse. »«
Elle refuse d'être avantagée. »«
Elle refuse d'être votre femme. »
Belloc fut littéralement renversé. Elle refusait quand lui consentait.
Il lui fallut un temps assez long de réflexion pour comprendre le récit du doyen et l'admettre comme possible.
« Eh bien, tant mieux » s'écria-t-il. « Elle ne méritait pas son bonheur. M'en voilà débarrassé. »
Mais après le premier moment de dépit, il ne persista pas dans sa satisfaction. Après avoir tout d'abord fait une opposition acharnée aux idées de mariage, il avait fini par trouver qu'elles avaient des avantages dans la situation où la maladie le mettait, et il les voulait, il lui manquait. Il fallait qu'il les eût, il les aurait en s'y prenant bien. C'était une affaire de tactique.
Il fit revenir le doyen et le pria de retourner auprès de Marichette pour lui communiquer un papier cacheté qu'il lui remit.
« Vous verrez que cela la décidera, monsieur le curé. »
Cela, c'était un testament écrit et signé de la grosse écriture de Belloc, par lequel il léguait à Marichette tout ce dont il pouvait disposer. Mais le doyen ne fut pas plus heureux cette seconde fois que la première. Quand Marichette eut lu ce testament, elle le remit au doyen en le priant de le reporter à celui qui l'envoyait.
« Monsieur Belloc s'est trompé sur mon compte, dit-elle. Je ne suis pas à vendre. J'ai refusé ce mariage malgré certains avantages moraux qu'il présentait. Je ne céderai pas maintenant à des avantages pécuniaires. »
« Veuillez observer, mademoiselle, qu'on pouvait croire que Monsieur Belloc ne ferait jamais de testament, mais maintenant qu'il a fait celui-ci, il peut en faire un autre. »
« Parfaitement, qu'il en fasse un autre. »
Quand Belloc apprit le résultat de cette nouvelle négociation, il entra dans une colère folle à laquelle il s'abandonna.
« Un homme comme moi, roulé par une femme, nom de Dieu !»
Il fallut aller chercher le médecin qui prescrivit des calmants. Le lendemain matin, quand on entra dans sa chambre, on le trouva mort, déjà froid.